Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, si soit-il. Mes bien chers frères, la fête de la transfiguration de notre Seigneur, j'espère que vous le savez, ce n'est pas aujourd'hui. La fête de la transfiguration, c'est le 6 août. Mais voilà, l'Église, dans sa sagesse, nous donne, dans le carême, c'est-à-dire dans la pénitence, dans le voile épais de nos yeux, de contempler justement la transfiguration du Seigneur, comme il l'a fait avec Pierre, Jacques et Jean, pour une raison très importante, nous fortifier devant le scandale de la croix et nous faire comprendre ce qu'est notre participation glorieuse. Alors, ce sont donc mes deux points. Tout d'abord, la gloire de Dieu qui resplendit ici se manifeste pour que nous ne soyons pas faibles, que nous ne fuyions pas devant le scandale de la croix, car comme tous les ans, nous sommes invités spirituellement à un pèlerinage qui va aller jusqu'au pied de la croix, et si nous faisons vraiment ce pèlerinage, il devrait nous faire peur. Oui, nous marchons vers la croix, vers notre souffrance et notre mort, et justement, c'est pour ça que nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Vous allez me dire, la théophanie du Seigneur, sa manifestation, son épiphanie, il y en a plusieurs. Alors, quelle est la différence? Tout au long de la vie du Christ, s'est manifestée la gloire de Dieu. Les anges l'ont annoncé à Marie, à Joseph, dans un songe, au berger. Il s'est manifesté quand Siméon a prophétisé sur cet enfant. Il s'est manifesté quand les rois mages vinrent lui offrir leur hommage. Il s'est manifesté tout spécialement au baptême du Christ, quand les cieux s'ouvrirent et la voix se fit entendre, comme aujourd'hui. Il s'est manifesté enfin dans tous les miracles du Seigneur, et tout spécialement dans le premier, les noces de Cana, où saint Jean note, « Ils virent la gloire de Dieu et crurent en lui. » Alors la différence, c'est que dans tout ce que je viens de citer, il y a quelque chose de la gloire de Dieu. Ici, c'est la gloire de Dieu elle-même, ce que les exégètes nous rappellent en hébreu, la Shekina, la présence même de Dieu. Dieu en personne manifesté dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, si ici, c'est parfaitement extraordinaire. En fait, c'est extraordinaire, mais c'est extraordinaire pour nous, car du point de vue du Seigneur, ce qu'il a montré ce jour-là à ses apôtres, eh bien, c'est son état normal. C'est-à-dire que l'état normal du Seigneur, c'est la gloire. C'est la gloire de son rayonnement, de sa vie béatifique, de sa plénitude. Voilà ce qu'ils ont vu ce jour-là, que nous espérons bien voir un jour. L'état normal du Seigneur, c'est la gloire. Alors, nous qui le voyons à travers le voile de la foi, le Seigneur d'ailleurs dans toute sa vie s'est montré à travers le voile de l'humanité. Sous ce voile, c'est notre foi qui nous fait découvrir la présence de Dieu. Ça, c'est sa manifestation. Mais qu'ont-ils vu finalement, les apôtres? Qu'ont-ils compris de cette vision incroyable? Tout d'abord, ils ont compris que c'était vraiment Dieu, à n'en pas douter. Mais voilà, en quelque sorte, ils ont du mal à nous en rendre compte, car c'est inatteignable. Vous pouvez prendre toutes les visions, toutes les apparitions qui ont eu lieu sur Terre depuis le début de l'humanité, que ça soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament ou dans la vie de l'Église, à chaque fois les voyants n'arrivent pas à dire vraiment ce que c'est. C'est normal, c'est insaisissable. Je pense, puisque c'est l'anniversaire de Fatima, à Sœur Lucie. Quelle chance! Elle a vu l'archange Saint-Michel. Alors on lui demande, à quoi ressemble-t-il? On lui fait des dessins, alors elle donne une description autant qu'elle peut. On lui fait des dessins, on lui en montre un premier. Non, c'est pas ça. Un deuxième. Non, c'est pas ça. Un troisième. Non, c'est pas ça. Bon, de guerre là, elle finit par dire « Oui, c'est ça, à peu près. » Et oui, c'est aussi ce que dit Bernadette Soubirous devant les dessins multiples qu'on lui montre de la Vierge Marie. Sœur Lucie ne dira pas autre chose que « Era de luz. » Et il était de lumière. Et je ne peux pas, je l'ai vu, c'est une vision véritable, mais tellement au-delà de mes capacités de compréhension, c'est-à-dire de prendre en moi véritablement, d'enregistrer, de décrire, que je ne peux pas vraiment dire. La même question est posée à Jeanne d'Arc, qui a vu aussi l'archange. était-il habillé ? Ici, c'est une question perverse, vous le savez, pour dire, eh bien, si elle dit qu'elle n'est pas habillée, c'est que c'est une femme qui a des visions lubriques. Si elle dit qu'il était habillé, elle se permet de décrire le ciel et de le comprendre. C'est donc qu'elle est menteuse. Question perverse à laquelle Jeanne d'Arc répond avec sa candeur habituelle et surtout la grâce qui est en elle. Ne croyez-vous pas que notre Seigneur puisse habiller ses anges ? Oui, le ciel n'est pas à notre mesure, mes amis. Le ciel est au-delà, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Voilà ce qui est préparé pour les élus. Et c'est cela qu'ils ont vu. Et c'est cela qui leur a fait peur. Ils tombent d'effroi. Ils sont bouleversés. Si vous connaissez les icônes orthodoxes traditionnelles, les apôtres ont la face contre terre, ils sont renversés. Voilà ce que nous attendons, nous aussi, d'être complètement convertis. C'est le chemin de notre carême, de nous retourner vers le Seigneur et d'en être bouleversés. Il n'y a pas d'amour qui puisse laisser indifférent et ne pas nous retourner le cœur. Oui, ils ont non pas peur de Dieu, car on n'a pas peur de Dieu. C'est notre Père, notre Maître, notre Créateur, celui qui nous donne tout sans cesse. Mais l'effroi saisit l'âme devant la grandeur de Dieu, devant celui qui est tout et moi qui ne suis rien, qui n'a jamais expérimenté un véritable amour, ne peut comprendre. Et l'amour, eh bien, nous avons peur d'abord de n'être pas à la hauteur, de le perdre. C'est ça la crainte de Dieu. C'est un don que vous avez reçu, cultiver la présence de Dieu. Si nous avions vraiment conscience de ce qui se passe, curé d'Ars se disait que à la messe, si nous avions une pleine conscience de ce qui se passait ici, nous mourrions de joie autant que d'effroi. Et oui, cela nous dépasse infiniment. Et heureusement, c'est petit à petit qu'il nous est donné de voir. C'était mon premier point, cette manifestation nous est donnée pour nous affermir et nous rassurer devant la venue de la croix. Mais il y a plus. La manifestation de cette gloire, cette théophanie du Christ, nous donne aussi de comprendre quelque chose de notre propre sanctification, de notre propre glorification. D'abord parce que le Seigneur a un corps. C'est pour ça que c'est possible, c'est pour ça que c'est une nouvelle incroyable. Que le Seigneur se manifeste dans son éternité et sa gloire, bon, ben c'est évident. Qu'il se manifeste et qu'il manifeste cette même gloire à travers son corps, c'est-à-dire un corps comparable au mien, un pauvre petit corps mortel qui va bientôt finir, ça, c'est bouleversant. C'est-à-dire que, en regardant la transfiguration du Christ, j'imagine combien la parole de Job est vraie. Je verrai Dieu de mes yeux de chair. Je vais pouvoir être béatifié, sanctifié, sacralisé, christifié. Et oui, c'est ce que dit Pierre. Il est bien heureux que nous soyons ici. Il a compris que quelque chose lui est donné ici, déjà, de la béatitude, c'est-à-dire de la vie en plénitude que nous aurons sans aucun mal, sans aucune mort, sans aucune limitation. Nous jouirons pleinement de Dieu, nous verrons Dieu tel qu'il est, car nous serons faits semblables à lui. Oui, mes bien chers frères, en venant communier dans un instant, c'est le même mystère qui va vous être donné en art, en préfiguration, mais ce n'est pas la figure qui vous est donnée, c'est la réalité. Alors, priez le Seigneur que devant la blancheur de l'hostie, vous puissiez vous aussi intimement goûter cette transfiguration que nous venons de lire. Car c'est bien ce qui va se passer. Comment c'est possible ? Eh bien, c'est ce que dit Pierre en disant « Voilà, il y a ici Élie et Moïse, faisons trois tentes. » Ne vous moquez pas de Pierre, il fait là une réflexion théologique profonde juive et il préfigure la théologie profonde de l'Église. Oui, c'est la fête des tentes chez les Juifs qui se souviennent que avant d'arriver en Israël, ils ont erré dans le désert, qu'ils ont vécu sous la tente et que le Seigneur habitait avec eux. Alors, Pierre, voyant qu'il y a là le Seigneur et tous les vivants du ciel, il sait bien que Moïse et Élie sont morts depuis longtemps, c'est donc le ciel qui est là, c'est Dieu lui-même. Eh bien, il lui propose de faire trois tentes pour qu'il vienne demeurer parmi nous. Quelle riche idée ! C'est ce que nous avons fait, nous aussi. Nous avons construit cette chapelle. Enfin, pas moi, parce que je suis trop jeune. Mais ceux qui ont ici bâti cette chapelle, qui ont voulu que des temples humains soient l'accueil de Dieu lui-même dans sa maison, mais cette église-ci, elle est dépassée par l'église véritable, le corps du Christ. Et en fait, cette église, elle est contenue dans le corps du Christ mystique qui est l'église. C'est pour ça que c'est le même mot entre cette chapelle, cette église, et l'église qui est le corps du Christ. C'est un va-et-vient sans cesse. Nous entrons dans l'église pour rencontrer le Seigneur. C'est lui qui entre en nous, et ce n'est pas nous qui le mettons à l'intérieur, qui l'enfermons en nous, c'est l'inverse. C'est lui qui nous possède et qui nous fait entrer profondément dans son corps par cette communion, cet échange admirable entre le ciel et nous. Voilà ce qui va se passer. Pierre a une intelligence profonde de l'Église qui est bâtie. Puissiez-vous, vous aussi, devenir le Christ, c'est-à-dire d'autres Christ, des Christianus, des du Christ, au point qu'on vous confonde avec le Christ lui-même, afin que vraiment vous soyez glorifiés dans l'éternité. Ainsi soit-il.